sportives, des invités, et on parle tous ensemble des sports de la ville d'Angers.
Retrouvez Yann, Max et Alex qui décrypteront avec vous l'actualité sportive locale.
Génération Sport, c'est tous les mardis à 20h sur Radio G 100.5 FM ou le www.radio-g.fr.
Chase you out of earth.
Bonsoir à tous, il est 20h passé de 4 petites minutes et tout de suite vous allez pouvoir écouter une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans Génération Sport. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission spéciale UFAB avec donc une joueuse qui est avec nous dans les studios. On va la présenter juste après. Avant ça, je vais présenter ceux qui m'accompagneront donc pour cette émission et qui donc sont l'équipe titulaire de Génération Sport. À ma gauche, le jeune prometteur Faustin. Ça va, Faustin ?
Salut. Bah ouais, ça va très bien.
Très bien sur cette Coupe du Monde, tu la suis un petit peu ou pas ?
Ouais, au lycée, j'arrive à suivre, mine de rien.
Ah,
ouais.
Ah bah bravo, ça suit pas les cours, ça suit les matchs. Hein.
C'est que j'ai des trous, des profs absents.
Oui, j'espère. Pas ouais, pendant les cours, attention, c'est pas bien. On veut pas de ça ici. Je comprends, évidemment. Et puis, donc, vous l'avez entendu, à ma droite, Cédric qui est là. Salut Cédric.
Salut tout le monde.
La forme, toi aussi, tu regardes la Coupe du Monde ?
Ouais, j'ai un peu lâché là quand même parce que. Vu la qualité des matchs, bon, ça ne motive pas forcément d'être là à 11h.
Il n'y a pas tout le temps des bons matchs.
Non.
Il y en a des bons, mais il n'y a pas tout le temps des bons.
Il y a quelques bons matchs, mais dans l'ensemble, on est plutôt sur un niveau moyen, je trouve.
Ouais. Effectivement, là-dessus, c'est vrai que... De toute façon, on va en parler, évidemment, de la Coupe du Monde. Et je le disais, donc, en introduction, on va recevoir, donc... on reçoit, d'ailleurs, une joueuse de l'EAB, et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est la capitaine... pardon, de l'EAB, j'ai dit... de l'UFAB, pardon, première boulette. Donc, Kekeli Elenga, donc capitaine de l'UFAB 49. Salut, Kekeli.
Bonsoir.
Donc voilà, on passera à l'interview en deuxième partie d'émission. Avant ça, évidemment, comme vous en avez l'habitude, chers auditeurs, on va revenir sur toute l'actualité sportive locale et internationale. Je vous propose de commencer tout de suite avec les actus locales, la grosse actualité, évidemment. Même si c'est la trêve de la Coupe du Monde, il y a toujours de l'actualité au SCO avec, on l'a appris jeudi matin, le départ de Gérald Baticle. On le réclamait, en tout cas on l'annonçait depuis déjà quelques semaines déjà dans notre émission et c'est enfin le cas. Baticle est remplacé par Abdel Bouazama en tant qu'entraîneur intérimaire, lui qui est donc été l'entraîneur des jeunes jusqu'à présent. Messieurs, c'est vrai que c'est une décision qui était quand même prévisible, on l'avait dit, que le SCO allait quand même profiter de cette... trêve internationale pour se séparer de son entraîneur à cause des mauvais résultats, la série de 7 défaites notamment consécutives. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est un peu tard ou c'est le bon moment, ce moment opportun ?
En tout cas, ça prouve encore une fois que les paroles dans le foot, ça veut réellement rien dire.
Oui, parce que c'est vrai que Sherman avait dit qu'il le garderait.
Il pouvait le garder et voilà, quoi, quasiment une semaine après. Bon. Alors, j'adore toujours ce thème. On ne dit pas licencié, mais
mise à pied. Remercier, ouais. Il y a plein d'adjectifs différents.
C'est formidable.
Ouais.
Non, c'est un licenciement pur et dur, de toute façon.
Oui, et d'ailleurs, le SCO va mettre la main à la poche.
Ah bah, de toute façon, c'est ce qu'on
je
avait...
C'est à hauteur de 2 millions d'euros.
C'est ce qu'on avait un petit peu annoncé. Hein. Quand tu signes, c'était 4 ans, je crois, de contrat. Au bout de 2 ans, quoi. Enfin, c'est...
Même pas, ouais, ça. Ouais, et en fait, il était en contrat jusqu'en 2025, donc ça,
ça va.
Ça fait
ça va encore s'agler.
Oui, d'ailleurs, en plus, oui, je crois qu'il veut le licencier pour faute grave, je crois, et ça va aller au prud'homme une fois plus avec le SCO.
Ah, mais je crois qu'ils doivent avoir une carte de fidélité.
Ouais, voilà, chez les prud'hommes.
Depuis toutes ces années, ils doivent avoir une petite salle réservée, je sais pas, mais voilà, enfin.
Oui, avec Check and Doy, Olivier Pique, enfin, pas mal de choses.
Ça montre vraiment qu'il va falloir que les choses changent et vraiment pas que sur le terrain.
Exactement. Toi, Faustin, qu'est-ce que t'en penses ?
C'était maintenant ou jamais, parce que s'il le faisait plus tard, c'est très très compliqué pour le nouveau coach de s'habituer. Donc c'est bien qu'il le fasse maintenant, ça aurait peut-être été mis un peu avant, mais c'était le minimum à faire. Là.
Alors le nouveau coach, donc, c'est Abdel Bouazama, c'est un coach qui est pour l'instant intérimaire. Alors bon, il y a des rumeurs comme quoi il serait quand même gardé sur... la suite de la saison. On sait que c'est un habitué du SCO, il est au club depuis 2013, il entraîne donc les jeunes, il a fait notamment la Youth League l'année dernière, mais il y a à peu près un mois, cette enquête de West France qui a un petit peu ébranlé la direction du SCO, donc sur les méthodes de management d'Abdel Bouazama. Cédric, est-ce que tu penses que ça peut être une solution viable ? Et sinon, est-ce que tu as des profils qui t'intéresseraient dans ceux qui sont dispo ? Parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de départs en Ligue 1.
Le problème avec si ça va au prud'homme, tu veux acheter qui ? Enfin, tu veux embaucher
oui,
qui ?
C'est... Il faut de l'argent.
Enfin, il va falloir de l'argent. Dans tous les cas, je vois pas. Même si c'est pour. Déjà, tu vas pas prendre un entraîneur pour faire l'intérim jusqu'à la fin de la saison.
Ouais, ça peut être long.
Faut derrière que tu proposes au moins une année de prolongation. Enfin,
ouais, ça va être bizarre.
Je pense que c'est peut-être la meilleure solution financièrement, en tout cas.
Ouais.
Après, voilà, bon, avec l'affaire qu'il y a eu, même si on ne sait pas trop si c'est West France qu'on a rajouté, si c'est. Enfin, voilà, il y a un petit doute là-dessus.
Bah, il y a un pénal, c'est un article. Quoi.
Voilà.
Des témoignages.
Il y a eu quand même plusieurs suites de témoignages qui sont additionnés.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, il y a eu plusieurs articles. Il voilà, ne risque rien, il n'y a pas eu de plainte.
Voilà, puis bon, entre-temps, le SCO a utilisé son droit de réponse oui, plusieurs exactement. Fois.
Plusieurs
mais,
fois, oui.
Mais c'est vrai que. Je ne sais pas.
Okay.
C'est, bon, ouais, ça peut être explosif.
Justement, dans ça tous peut les peut-être sens, quoi. C'est ouais. les joueurs. Donc voilà, pour le SCO, on suivra évidemment si Abdel Bouazama va rester jusqu'à à la fin de la saison, s'il y aura donc un entraîneur qui va être nommé.
Reprise des entraînements, c'était cette semaine, je crois.
Non, hier.
Oui, voilà, ouais,
hier, effectivement, le SCO qui reprenait le chemin de l'entraînement. Faustin, on va passer au basket maintenant, avec des clubs qui cartonnent, notamment Cholet.
Notamment Cholet, mais je vais d'abord commencer par le plus proche de nous, avec l'EAB. Qui, en ces deux semaines d'absence de Génération Sport, ont eu le temps de jouer deux matchs. Et on finit sur un bilan neutre de une victoire et une défaite. La première victoire a eu lieu face à Orléans, sur le score de 66. Pardon. Mais les Angevins sont ensuite inclinés en prolongation contre Boulazac, sur le gros score de 109 à 102. Les Angevins qui jouent d'ailleurs en ce moment à Jeanbrun face à Vichy Clermont. Maintenant, du côté de l'UFAB, elles ont eux aussi eu le temps de jouer deux matchs durant ces deux semaines et sont restées sur le même bilan que l'EAB, en s'opposant dans un premier temps en Eurocoupe pour le premier match des phases retour et ont donc pris leur revanche sur les Flammes Carolo de Charleville-Mézières sur le score de 84 à 63. Et elles se sont ensuite déplacées du côté de Villeurbanne en saison régulière où elles ont cette fois-ci perdu sur le score de 87 à 76. Leur prochain rendez-vous est face à Basketland dimanche à 15h30 à la salle Jeanbrun. Maintenant, je vais passer à Cholet, qui, comme tu le disais, sont très, très, très en forme sur ce début de saison. Ils ont, eux, joué trois matchs et ça a donc débouché sur trois victoires, ce qui encourage les Choletais à continuer sur cette excellente lancée sur laquelle ils sont depuis le début de saison. Alors, pour les deux matchs ont été joués en Betclic Elite. Le premier face à Blois, remporté sur le score de 79 à 74. Et le second face à Dunkerque, cette fois remporté sur le score de 76 à 64. La dernière victoire choletaise a eu lieu en Coupe d'Europe face aux Belges des Kangourous de Malines. J'étais personnellement assez médisant sur l'avenir de Cholet en Coupe d'Europe. Et
finalement,
il faut dire que je me suis sacrément trompé parce que c'est un super parcours qu'ils nous proposent.
Ils sont qualifiés là ou pas?
Je crois pas, il doit leur rester un ou deux matchs à jouer.
Okay. Mais ils sont bien placés. Quoi.
Ouais, une victoire leur suffit, il me semble.
Ok, très bien. Donc voilà, cette victoire contre Malines en Belgique. C'est bon pour le basket? On reviendra vers toi pour la NBA, évidemment. Petit point.
Et la Betclic Elite.
Évidemment. On va passer maintenant au handball. Ça devient désormais une habitude. Le SCO handball a de nouveau gagné ce week-end à domicile contre Pau. Les Angevins ont confirmé une nouvelle fois leur statut de leader de N1 Elite en dominant la formation des Pyrénées-Atlantiques 36 à 32. Un match maîtrisé dans l'ensemble, malgré une frayeur en début de seconde période. L'homme du match fut Swan Lemarié, auteur de 9 buts dans la rencontre. Au classement, les scoïstes ont toujours 2 victoires d'avance sur leur dauphin vénitieux avant le déplacement qu'ils attendent dans 2 semaines à Martigues. On va passer au Duc d'Angers. Il y a une dizaine de jours maintenant, les Ducs avaient rendez-vous avec leur destin européen à l'occasion du 3e tour de Continental Cup à Cardiff au Pays de Galles. Et les Ducs ont démarré ces 3 jours de compétition par un premier revers 3-1 contre les hôtes gallois, les Devils. Le samedi, les Angevins se sont remobilisés en battant les Lettons de Zemgale 2-0 avant une ultime victoire synonyme de qualification le dimanche contre les Slovènes de Jesenice. 4 buts à 1. La poule finale aura lieu donc du 13 au 15 janvier 2023 dans un lieu encore à déterminer. Et les adversaires des Ducs pour ce week-end donc de finale européenne seront donc les Devils de Cardiff. Il y aura également les Slovaques de Nitra et les Italiens d'Assiago. Donc voilà pour les Ducs qui ont réalisé, c'est vrai qu'une une grosse performance.
Ouais, ça avait un peu mal démarré, comme tu le disais, mais ils ont su se remobiliser dans le deuxième match, et puis voilà, assurer cette deuxième place qui était qualificative, puisqu'on prenait les deux de chaque poule pour la poule finale. Il y a une belle option, en plus, du coup, c'est qu'on va peut-être la jouer à domicile.
Ouais, c'est peut-être parce que donc le lieu est pas encore déterminé, mais
il y avait ça a été pressenti.
Je crois que c'était pour si on était premier. J'avais vu ça, mais je
apparemment ça, mais c'est peut-être plus ou moins un appel à candidature parce que j'ai pu voir à droite à gauche. Mais
Ce serait énorme.
Parce qu'en fait là, tous les clubs qui sont en finale ont
postulé.
Ont déjà reçu au moins une fois, donc
oui, ok.
Ça pose pas le problème du coup de
ouais, de savoir.
Et ouais, ce serait plutôt cool qu'on puisse la...
Bah, ce serait énorme, ce serait un gros avantage aussi pour les Ducs.
Bah, c'est ça, c'est...
Ce sera des gros adversaires, ils ont besoin de leur public.
Parce que je pense que c'est ce qui a peut-être pêché un petit peu, bien qu'il y ait eu du public en juin à Cardiff, ouais. Qui s'est déplacé, donc... Mais c'est vrai que ça aide toujours... Mais non, c'est une belle surprise quand même. Mm. Et puis voilà, bon, derrière... il reste 3 matchs à jouer, donc on verra bien.
Peut-être.
Ça se passe bien aussi au niveau championnat. Donc,
rien à dire sur...
En tout cas, c'est bien. Pas de grosses blessures, tout ça. Donc, tout plutôt positif. Quoi.
Plutôt positif. On va passer aux actualités internationales maintenant avec évidemment la Coupe du Monde. L'équipe de France, vous le savez certainement, chers auditeurs, a réalisé entre guillemets le doublé avec 2 victoires en 2 matchs. Une première contre l'Australie, 4 buts à 1. Ensuite, une victoire 2-1, c'était samedi contre le Danemark. Et donc, le dernier match de phase de poule, il est donc demain à 16h contre la Tunisie. À savoir que l'équipe de France est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, quasiment aussi assuré d'être première. Ça, évidemment, on suivra, mais normalement, ça devrait le faire. Au niveau de l'équipe probable pour le match de demain, alors ça va beaucoup tourner. Mandanda sera dans les buts. On aura une défense à 4. Pavard, Varane, Konaté et Kamavinga, oui, en latéral gauche. Car, donc, on le sait, Lucas Hernandez est blessé et Théo Hernandez sûrement aussi ménagé en vue du huitième de finale. Au niveau du milieu de terrain, on aura toujours Griezmann qui sera en position de 8, un peu 10. On aura également Tchouaméni ou Fofana donc, qui seront notamment dans l'entrejeu, et Fofana ou Guendouzi selon les dernières rumeurs de l'équipe notamment. On aura en attaque Coman, Thuram et Mbappé. Alors Mbappé a été touché à la cheville après l'entraînement d'aujourd'hui, mais apparemment rien d'inquiétant pour le moment. La décision va être prise sûrement dans les prochaines heures pour savoir s'il peut jouer. Alors avant de revenir sur les deux matchs des Bleus, je vais vous parler des matchs d'aujourd'hui. L'Équateur a perdu contre le Sénégal 2 buts à 1 et le Sénégal donc s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Une très belle performance pour les hommes d'Aliou Cissé. Les Pays-Bas l'ont emporté 2-0 tranquillement contre le pays hôte, le Qatar. Ce soir, nous avons un match entre l'Angleterre et le Pays de Galles et un match décisif pour la qualification entre les États-Unis et l'Iran. Au niveau de match, puisque ça a commencé, c'était à 20h, il y a toujours 0-0 sur les deux rencontres. On vous tiendra évidemment informé de l'évolution des scores. Cédric, ça a été une journée notamment pour toi sur une célèbre application que tout le monde utilise en ce moment pour la Coupe du Monde, Mon Petit Prono. Tu as eu 2 scores exacts
dans la même journée, ouais.
Effectivement, on a une petite ligue pour tout vous dire donc entre Génération Sport. Cédric est le leader de ces pronos. Alors on sait que...
Non, j'ai perdu la première place.
Non, je crois que tu l'as gagné justement aujourd'hui avec tes 2 pronos exacts sur les 2 matchs.
On va vérifier ça en direct, mais il me semble qu'il y a un tout petit écart entre nous deux.
Ça joue entre nous deux. Faustin, je crois que t'es en mauvaise posture, mais
je suis bon dernier.
Hein. Ah oui, je suis repassé exactement, ouais.
Bref, de toute façon, ça a le temps d'évoluer. Rien n'est perdu, Faustin, sache-le. Mais donc voilà, effectivement.
Bon, faut juste que tu ailles chercher la troisième place parce que Yann, qui n'est pas spécialiste dans le foot.
Souvent sur cette appli, c'est souvent.
Cette appli, il trouve.
Bref, et donc voilà, effectivement, voilà, petite interlude. C'est vrai que c'est une application que beaucoup de gens utilisent. Je crois qu'il y a près de 1,5 million de personnes qui l'ont téléchargée, donc c'est assez énorme. Donc, sur la compétition, il y a donc 5 pays. Enfin, déjà qualifié, le Sénégal, les Pays-Bas, la France, le Brésil et le Portugal. Donc voilà, qu'avez-vous pensé des premiers matchs des Bleus, messieurs? C'était deux matchs plutôt, alors, faciles, en tout cas maîtrisés dans l'ensemble.
Ouais, il y a du mieux, je trouvais quand même, mais c'était pas encore ça sur le charnière central, mais bon.
Ouais, on l'a pas
déjà la blessure, bon, qui arrive assez tôt, qui chamboule un peu tout. Heureusement qu'il y a un Hernandez pour en cacher un autre.
Oui, c'est ça.
Là, il a vraiment fait le job. C'est vrai que pour lui, ça doit pas être évident de rentrer à ce moment-là.
Ouais. Et une passe décisive.
Mais voilà, ouais. Puis en plus, derrière un match solide.
Ouais.
Au niveau de l'attaque, bah voilà, Giroud. Hein. Ceux qui voulaient l'enterrer, il prouve une fois que voilà, il a largement sa place. Mbappé un peu mieux dans le deuxième match.
Ouais.
C'est pas encore ça. Je trouve qu'il y a encore trop des fois de déchets parce qu'il veut jouer individualiste.
Mais trois buts et une passe D, quoi.
Ouais, mais c'est quand même mieux. Mais voilà, dans l'ensemble, bah, y a toujours la charnière centrale qui est toujours un petit peu...
Ah, qui peut prendre des buts, quoi.
Voilà, Brandt. Et puis bon, la défense, bah, du coup, quand pâtit, quoi. Mais...
Ouais. Faustin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais, moi, je suis d'accord. J'ai pas pu voir le deuxième match entier parce que j'avais mon propre match de basket.
Ah,
mais
les priorités.
Ouais, évidemment. Mais de ce que
ça,
j'ai
ça
vu,
a gagné ou pas, pardon.
Évidemment. la D1 quand même. Bon, bref. Du coup, c'est moi j'aime bien quand même les voir jouer. C'est vrai, je suis d'accord pour la charnière centrale, mais on s'y attendait malheureusement un peu. Après, l'attaque, franchement, elle est magnifique notre attaque, avec un Dembélé à droite qui fait avoir le tournis à ses défenseurs, Mbappé à gauche et Griezmann qui est partout. Je le trouve vraiment super fort là sur dans cette Coupe du Monde.
Très très puissant, ouais.
Que moi, franchement, j'ai pas peur de dire qu'on est vraiment potentiellement vainqueur de cette Coupe du Monde.
Oh là, il annonce.
J'avais mis l'Argentine, attention. Mais.
Ça peut changer.
Ouais.
Justement, d'ailleurs, je voulais parler des surprises un peu de ce mondial. De façon plus générale, pour vous, c'est quoi la plus grosse surprise? Alors, que ce soit positif avec des petites nations qui sont plutôt fortes ou avec des nations qui perdent notamment. C'est quoi, pour vous, le fait le plus surprenant? Moi, personnellement, ce serait l'Argentine, que je voyais un peu plus haut, effectivement.
Ah, je dirais l'Allemagne.
Je ne les voyais pas non plus vainqueurs. L'Allemagne aussi, la victoire du Japon contre l'Allemagne.
Enfin, ouais, mais même derrière, c'est pas...
C'est pas dingue.
C'est pas dingue, je trouve, l'Allemagne, normalement, qui est censée être bien bâtie pour...
Ouais, un bel effectif.
Pour ça, ouais.
Faustin, toi?
Moi, j'allais sur la Belgique, du coup.
Belgique en déception. Ouais. Et en surprise positive, quelle nation vous sortez? Je ne sais pas si vous avez vu tous les matchs, évidemment, mais...
Moi, le Ghana.
Ok, Ghana.
Le Ghana, j'ai vu le match contre la Corée du Sud, c'était sympa à voir.
Ouais. Moi, j'ai bien aimé la prestation du Maroc, les deux matchs. Parce qu'actuellement, ils sont premiers de leur groupe, je crois.
J'irais Japon, parce qu'ils confirment quand même. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est affolant le niveau de certaines équipes, en règle générale. Hein. Bon, le Qatar, on va pas en parler, mais bon, c'était un peu prévisible, hein, j'ai envie de dire. Mais,
ouais, c'est pas dingue, quoi.
Voilà. Les équipes africaines, c'est souvent comme d'habitude.
Et là, la première journée était compliquée, la deuxième était un peu mieux.
Ouais, mais le Cameroun, pour moi, ça va pas passer. Hein.
Non, mais il y a d'autres comme le Maroc, le Sénégal qui est qualifié.
Le Sénégal, oui, parce qu'on l'avait un peu pressenti déjà.
Ouais, peut-être le Ghana qui est toujours en liste, mais il faudra battre l'Uruguay quand même.
Non, le Cameroun, c'est toujours les mêmes histoires en fait à chaque Coupe du Monde.
Oui, hein, avec l'histoire de Nana, ouais.
Les histoires d'ego dans les vestiaires, enfin c'est...
Ouais,
entre les vestiaires, la présidence, tout ça, c'est un peu triste, je trouve, pour le football africain.
Ouais, ouais.
Surtout qu'il y a quand même des bons joueurs dans ces équipes-là. Quoi.
Ouais, bien sûr. Toi, Faustin, oui, donc tu m'as dit en bonne surprise?
Le Ghana.
Le Ghana, oui, ok. Donc voilà, on verra s'ils ont un match décisif à jouer contre l'Uruguay. Donc, la semaine prochaine, on parlera toujours Coupe du Monde avec ce qui s'est passé. Il y aura déjà des huitièmes, mais je crois même des peut-être d'écart qu'auront commencé. Non, je crois que ce sera encore les 8e. Donc voilà, ce sera intéressant de voir ça. On aura peut-être certaines affiches au niveau des quarts de finale.
En tout cas, on ne félicite pas la FIFA pour les...
On ne félicite pas la FIFA tout court. Jamais on la félicite la FIFA.
Non, mais les retournements de vestes multiples entre les stands d'alcool qui sont interdits dans les dernières minutes, enfin les minutes qui deviennent c'est pas du temps additionnel, mais c'est des prolongations.
Ouais, c'est
les beaux discours du président qui, quelques jours après, sont... Enfin, même pas mis à la poubelle, c'est pire que ça, c'est limite enterré, ses propos, enfin c'est... Ouais. C'est, voilà, tu vois, si on cherchait vraiment le pire, je crois, c'est ouais, la FIFA.
Gianni Infantino.
Ah oui, Infantino, et certains de sa bande, c'est infernal pour ça, quoi.
Ça me fait penser un peu à Voldemort, Infantino. quelquefois, vraiment, c'est un peu ça. Bon, bah, on va finir donc la page Coupe du Monde. Faustin, tu vas nous parler de basket avec la NBA, mais aussi, comme tu l'as dit, la Betclic Elite.
Exactement.
Notre beau championnat de France.
Ouais, voilà, un beau championnat de France. On voit trois équipes clairement qui sortent du lot en ce début de saison. Alors d'abord, Cholet hein, qui est premier ex aequo, c'était pas arrivé depuis un certain temps à mon avis. Ils sont ex aequo avec les Mets 92 de Victor Wembanyama évidemment, ainsi que Monaco qui est troisième avec un match de retard il me semble, mené eux par Mike James et rejoint cette saison par Eddie Okobo. J'ai l'impression que un peu comme on avait l'habitude avec Baticle de parler toutes les semaines de Victor Wembanyama, parce que c'est vraiment un énorme phénomène.
Il y a
des
fils rouges à chaque fois dans l'émission.
Ah, c'est, ouais, c'est ça. C'est, je pense que ça va rester toute l'année. Hein, mais
bah, oui.
Voir ça, pour vous dire, il a déjà 3 matchs à plus de 30 points sur cette saison, et il est passé qu'une seule fois, il a que 3 matchs sous la barre sous la barre des 10 points.
Ah, okay.
C'est
monstrueux, quoi.
C'est, ouais, c'est pour un joueur de son âge de voir ça, c'est
2004, c'est ça? Non,
ouais,
2000,
ouais, 2004, ouais, c'est ça.
Ah, putain,
qui va être drafté cet été, du coup, hâte de voir vraiment ce qu'il va donner, même en équipe de France pour les JO, ouais, tout ça, accordé avec Rudy Gobert, ça va être magnifique, à mon avis.
Et la NBA?
Ouais, la NBA, où le tableau qui commence à se dessiner et qui commence aussi à ressembler un peu à celui de la saison dernière. On retrouve les Suns, qui sont premiers à l'ouest, ainsi que les Celtics et les Bucks, qui se retrouvent à leur tour dans le top 3 à l'est. On avait vraiment l'impression d'un air de déjà-vu. Cependant, on remarque quelques absents, comme le Miami Heat, qui avait fini premier à l'Est la saison dernière, qui se retrouve dixième, c'est-à-dire la dernière place pour pouvoir espérer être en play-off, alors que pourtant, il n'y a eu quasiment aucun changement d'effectif, mais ils n'arrivent pas à se mettre en place. À l'Est toujours, on a aussi les Chicago Bulls, qui sont absents de ce classement, qui sont douzième, et qui ont du mal, là aussi, à développer leur jeu, alors qu'ils ont une équipe semblable à celle de l'année dernière, et avec des profils de joueurs très intéressants. Maintenant, à l'ouest, le gros absent de ce début de saison, c'est évidemment le tenant du titre, les Golden State Warriors, qui ne sont que 9e. C'est dommage de les voir comme ça. Les Splash Brothers, Klay Thompson et Stephen Curry, qui ont du mal à se mettre en route en ce début de saison. Et on a aussi les Dallas Mavericks, qui malgré un excellent Luka Doncic, que j'avais annoncé MVP en début de saison, se retrouve à la 12e place, ce qui, à mon avis, ne suffira pas, une 12e place, si ça continue comme ça, pour aller chercher un MVP pour Luka Doncic.
Très bien, donc voilà, merci pour ce petit point NBA. On va enchaîner tout de suite avec le tennis et la Coupe Davis. Le Canada a remporté sa première Coupe Davis en dominant en finale l'Australie 2-0. La compétition n'a pas forcément fait grand bruit, hein, tant la nouvelle réforme est décriée par les observateurs du tennis, mais aussi par certains acteurs. Toujours est-il que les Canadiens l'ont donc emporté en finale grâce notamment à leur crack Félix Auger-Aliassime. Ils avaient battu en demi-finale donc l'Italie 2-1. Tandis que l'Australie, vaillant finaliste, était venue à bout de la Croatie. Et on termine par le handball avec la désillusion des Françaises lors des demi-finales de l'Euro. C'était il y a une dizaine de jours. Après un premier et un second tour sans encombre, les Bleus ont déchanté en demi contre la Norvège en s'inclinant sans résistance 28-20. Double peine pour les joueuses de Olivier Crumbles qui n'ont pas su repartir avec la médaille de bronze à cause d'une défaite en prolongation 27-25 dans le match pour la troisième place contre le Monténégro. C'est finalement la Norvège qui a conservé son titre en finale contre le Danemark. Du côté des masculins, terrible nouvelle pour l'équipe de France qui a perdu sur blessure Karl Konan, l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe pour le prochain mondial qui se déroulera donc du 12 au 29 janvier 2023 en Suède et en Pologne. On va tout de suite marquer une courte pause musicale puis on sera de retour juste après pour l'interview de la capitaine de l'UFAB, Kekeli Elenga.
But we ain't really gonna sleep at all. You ain't gonna catch me with them sneak pictures, sneak pictures. In my city, I'm a young god. That pussy kill be so vicious. My god, white key in my pocket. You get me redder than the devil till I go. Now she asked me if I do this every day. I said often. Ask how many times she rode the wave. Not so often. Baby, bitches down to do it either way. Often. Baby, I can make that pussy rain. Often. 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 Girl, I do this often. Make that pussy pop it. Do it how I want it. Often. Often. Girl, I do this often. Make that pussy pop it. Do it how I want it. Often. Infatuated by the fame status. She wanna ride inside the G-Class frame at it. I come around, she leave that nigga like he ain't matter. That girl been drinking all day, need a change bladder. She just happy that the crew back in town.
De retour dans Génération Sport pour la suite de votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez toujours depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr. On est toujours avec Faustin, avec Cédric et avec notre invité Kekeli Elenga, capitaine de l'UFAB 49. Donc, avant de passer à l'interview, je vais te présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Notre invité a entamé sa deuxième saison sous le maillot de l'UFAB 49 après un long parcours. Né à Creil, Kekeli Elenga rejoint le centre de formation de Bourges en 2006 alors qu'elle a tout juste 15 ans. Après seulement un match en LFB sous les couleurs du Tango en 2010, elle rejoint Le Havre où elle découvre la LF2. Puis les clubs s'enchaînent, Dunkerque, Fethia, Chenove, Landerneau, puis Chartres. Et c'est ce passage à Chartres qui va être notamment l'un des plus bénéfiques pour sa carrière, puisqu'elle rejoint ensuite Angers en 2021. Après trois bonnes saisons en Ligue 2, chez le promu angevin, elle totalise 4,2 points par match et 3,5 rebonds pour sa première année. Mais c'est lors de la saison 2022-2023 que Kekeli Elenga prend une nouvelle dimension avec des stats impressionnantes et avec toujours ce rôle de capitaine. Mais ça, on en reparlera dans la suite de l'interview. À noter qu'elle évolue au poste 4, donc grâce notamment à ses 1m86 qui lui permettent une bonne présence dans la raquette adverse. Déjà, est-ce que je me suis trompé sur ton parcours ou tout est bon?
Je pense que tout est bon. Tu sais, t'as oublié La Roche-sur-Yon avant Chartres, entre ouais, Landerneau.
Ah oui, j'ai oublié, ouais, effectivement. En plus, je me suis noté après, mais bref, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Donc, on va parler d'abord un peu de ton début de carrière, avec notamment ton passage chez les jeunes à Bourges. Comment tu as fait ce choix de la voie, justement, du centre de formation, qui est un vrai choix? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, d'être dans un centre de formation?
Faut savoir qu'à l'époque, les centres de formation les plus réputés pour nous les filles, c'était Bourges et aussi Valenciennes. Donc ensuite, si c'était pas Bourges ou Valenciennes, la plupart allaient en direction de l'INSEP. Donc moi, j'avais pas eu la chance de faire les essais à l'INSEP. Je n'avais que Bourges et Valenciennes. Et ce qui m'a amené à faire ce choix-là, c'est juste les infrastructures. Dans le sens où à Bourges, c'était un Krebs qui était tout nouveau. Donc ça m'a plus attiré, on va dire ça comme ça. Ensuite, l'accueil, la prise en charge, je trouve, était un petit peu plus haut de gamme, entre guillemets. Je me suis sentie vraiment prise en charge, ainsi que ma famille, vu que mes parents m'avaient accompagnée à l'époque. Et puis après, voilà, de voir des joueuses comme Cathy Melin, Céline Dumerque, Emeline Ndongue, à l'époque, que j'avais pu voir à l'entraînement, bah, ça met tout de suite des étoiles dans les yeux. Donc j'avais vraiment envie de rejoindre l'écurie. Et voilà.
Tu as aussi évolué chez les jeunes de l'équipe de France en U16, U18 et U20, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
J'imagine que ça a dû forger aussi ton caractère de jeune basketteuse, mais aussi du coup l'expérience d'une telle opportunité.
Oui, c'est vrai que ça nous apporte un petit plus en fait à notre pédigré, on va dire ça comme ça. Voilà, de pouvoir représenter l'équipe de France assez tôt comme ça, de pouvoir chanter l'hymne national, oui. On s'en rend pas compte, mais ça donne des frissons et puis surtout ça nous galvanise, ça nous donne un petit peu plus confiance et ça nous montre bien que voilà, on fait partie des meilleurs jeunes, des meilleurs de notre génération et qu'on représente la France. Donc ça apporte beaucoup. Et après, c'est aussi énormément d'engagement dans le sens où ça, c'est pendant l'été. Donc, ce qui veut dire que pendant les vacances d'été, les vacances scolaires et sportives, bah, t'as pas fini parce que tu pars encore avec l'équipe de France.
Donc, entre 2013 et 2015, tu rejoins Fethia et Chenov. Oui. C'est des clubs qui évoluent à l'époque en N1. Comment tu as géré le fait d'aller à un niveau un peu plus bas que ce que tu connaissais, et surtout comment tu as trouvé la force de persévérer pour passer de la troisième à la première division, notamment justement à Roche-Vendée en seulement 3 ans?
Faut dire que du coup en 2013, après mon année à Dunkerque, c'était une année un petit peu en plein doute où moi j'avais aussi besoin de me retrouver moi en tant que personne. Et je suis quelqu'un qui continuait ses études à côté et j'avais pas la possibilité de continuer mes études en étant en Ligue 2 à cette époque-là. C'était pas forcément pris en considération les doubles projets. Donc moi, j'ai pris la décision de redescendre d'un niveau pour pouvoir parfaire mes études, pour pouvoir ensuite rebondir en Ligue 2. Donc après, qu'est-ce qui m'a donné la force? Ben, je savais très bien qu'en National 1, il n'y a pas de stats. Donc il fallait vraiment tout casser à tous les matchs, il fallait que j'arrive à faire parler de moi, chose que j'ai réussi vu que derrière je signe mon contrat à Landerneau. Et puis je pense qu'ensuite à Landerneau, je n'étais pas attendu à ce niveau-là. Donc mes 2 années se sont plutôt très bien déroulées et puis j'ai pris du plaisir et j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Ce qui du coup a fait de l'œil à La Roche-sur-Yon qui m'a appelé derrière. Donc on va dire que c'est la persévérance et l'envie qui m'a aidé à monter d'étape en étape.
Est-ce que tu as sentiment, comme je le disais un peu avant, que ce passage à Chartres a été une de tes meilleures périodes en tant que joueuse avant de rejoindre Angers, surtout que c'est un club chez lequel tu es restée donc le plus longtemps, 3 ans. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi?
Oui, c'est vrai. Chartres, ce sont mes plus belles années, vraiment des années abouties, basketement parlant. Voilà, j'avais cette envie de me rapprocher plutôt de la région parisienne et de la Picardie, vu que ma famille est là-bas. Donc j'avais ce besoin de m'y retrouver en fait, vu que ça faisait un moment que j'étais un petit peu loin. Et ouais, j'ai vécu, faut le dire, hein, c'était mes meilleures saisons, mes plus belles années. Donc j'ai pas peur de le dire. J'espère en vivre d'encore plus belles à Angers.
Bien sûr. Justement, Angers, on va y revenir. Comment s'est passé ton arrivée à Angers en 2021? Comment le club t'a contacté?
J'ai été contactée par c'était David, il me semble, qui a un petit peu parlé avec mon agent. Mes agents m'avaient déjà un petit peu mis la puce à l'oreille. Alors Angers, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je pense qu'ils sont un peu intéressés. Donc oui, j'avais été contactée par David. Et puis j'avais aussi des bonnes copines qui jouent ici, notamment Isis, Tutti Gandega qui était là, Sarah Ousfar, enfin c'est vraiment des amis proches, donc j'en avais que des bons échos. Donc je savais très bien qu'à Angers, ça allait plutôt bien se passer, et sportivement et aussi, on va dire, dans la vie de tous les jours dans le groupe. Donc mon intégration s'est plutôt bien déroulée. J'ai bien apprécié la ville. Ça change de Chartres parce que c'est une très très grande ville. Franchement, je l'ai vécu encore ce matin, des bouchons monstres pour me rendre à la salle. J'avais plus l'habitude du tout, voire pas du tout.
Ouais.
Et non, donc voilà, vraiment une bonne intégration la saison passée. Et puis aujourd'hui, c'est dans la continuité de la saison dernière. On essaye vraiment d'accueillir les nouvelles joueuses ou la nouvelle coach. Et vraiment, tout se passe plutôt pour le mieux.
Dans un article pour Ouest France paru fin 2021, tu avais déclaré, je trouve ça intéressant, je m'étais toujours dit qu'à 30 ans, j'arrêterais. Et finalement, donc, on apprend dans l'article que la proposition justement du dernier challenge, enfin, en tout cas du challenge à Angers, t'a motivé à continuer le basket en professionnel. Et justement, du coup, juste avant que l'UFAB ne te contacte, qu'est-ce qui t'a fait te dire « j'arrête potentiellement ma carrière ».
Ça fait depuis toute jeune que je souffre un petit peu des genoux, donc notamment j'ai grandi très très vite, très très tôt, donc il y a un moment les os, les cartilages, il n'y a rien qui suivait, donc j'ai été très tôt blessée, et je savais très bien que si je veux avoir une vie après basket, il va falloir préserver mon corps. Donc j'écoutais un petit peu mon corps et je me disais à 30 ans on va voir comment je me sens, parce que je ne me sentais pas pouvoir arriver à cet âge-là jusqu'ici. Bah, chose que j'ai pu réaliser. Et ensuite, donc à Chartres, il me semble que c'était mon année de mes 30 ans, quand Angers m'a appelé. Puis j'étais en pleine bourre, en fait. Je me sentais bien, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement et autres. Et j'avais envie d'un nouveau challenge. Je suis quelqu'un qui a besoin de toujours repousser les limites. Et puis j'ai réussi à le faire à Angers. Donc aujourd'hui, bon, j'ai eu un petit bobo au genou il y a quelques jours et ça va mieux. Mais bon, on verra. Peut-être, là, hier, on me disait pourquoi pas continuer jusqu'à 39-40 comme Céline Dumère. J'ai dit non, ça, voilà. C'est pas possible.
Céline Dumère, je pense que c'est une autre galaxie.
C'est une autre galaxie. Et non, malheureusement, peut-être au niveau amateur, mais professionnel, c'est pas possible.
Ça marche. Du coup, je vais maintenant parler, du coup, justement, de cette saison dernière qui a été marquée par une qualification assez inattendue pour les playoffs de LFB. Comment tu définirais votre performance accomplie sur la saison ? Est-ce que c'est exceptionnel, c'est une grande performance, que vous avez su tout simplement répondre présent au rendez-vous, c'est une surprise, je sais pas.
Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une surprise, mais moi je pense que c'est tout simplement mérité. Je pense qu'on n'était pas attendu à ce niveau-là, et donc pour beaucoup ça crée de la surprise, mais pour nous c'était dans la logique des choses. Voilà, on a travaillé pour en arriver là, on a vraiment construit une bonne équipe, un bon groupe, un bon noyau. On savait quelles étaient nos priorités, notamment vis-à-vis des matchs et nos adversaires. On savait très bien que dans le championnat LFB, T'as deux championnats en un. T'as les équipes haut de tableau qui sont Bourges, Lyon, Villeneuve-d'Ascq, qui vraiment, elles, vont jouer de la première place, notamment pour l'Euroleague et autres. Et puis t'as nous, un petit peu derrière, les promus. T'avais Landerneau, Tarbes, qui, elles, on savait qu'on allait se battre avec elles pour les play-in. Donc, dans tous les cas, on avait ciblé, nous, les matchs de nos adversaires vraiment prioritaires. Mais ça ne nous a pas empêché d'aller taper quelques gros, notamment Charleville qu'on a battu à aller-retour. Enfin voilà, on a montré qu'on était capable. Nous, on savait qu'on était capable, mais je pense que beaucoup ne le pensaient pas.
Et puis les résultats sont arrivés quand même assez vite en début de saison.
Ouais.
Ce qui a bien lancé jusqu'à Noël à peu près. C'était oui, Noël là, qu'on avait commenté le match. Ouais. Ça. Et c'était là, quand on en discutait avec le président à l'époque, c'était... Ça a commencé dans son discours à être envisageable d'aller jouer
les playoffs,
mais il y avait encore une petite réserve. Mais en tout cas, ouais, on voyait déjà qu'il
y avait quelque chose.
Il y avait quelque chose sur cette saison-là, en tant qu'outsider, quoi.
Oui, on l'a senti dès le début, les premiers matchs quand on est parti gagner à Saint-Amand. Après, je pense qu'on prend Montpellier à la maison. Je pense qu'on enchaîne 2-3 perfs comme ça, et puis là, on était vraiment en confiance. Il y a rien qui pouvait nous arrêter. Et arrivé à Noël, on se disait, bon, faut dire que c'était dans nos têtes. Nous, dès le début, on visait déjà les playoffs pour éviter les play-downs et se retrouver dans une situation vraiment inconfortable. Et donc, à partir du moment où on a réussi à prendre des gros matchs, notamment celui de Charleville, parce que je pense que celui de Charleville, c'est celui vraiment qui nous a permis d'atteindre un niveau de confiance vraiment extrême. Après, on y a pensé, même si au mois de janvier, c'était chaotique un petit peu, où on perd des matchs, notamment Saint-Amand à la maison. On perd à Tarbes après prolongation. On a eu un petit coup de mou. Mais derrière ça, on a enchaîné. Et puis, les victoires du début de saison nous ont sauvés aussi. Donc,
Et parce que c'est vrai que la LFB, c'est quand même un championnat. C'est un peu tout ou rien. Parce que c'est soit les play-downs, soit les play-offs.
Il n'y a pas de juste milieu.
Donc voilà, c'est assez bizarre. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu tout ou rien. Ouais. Pour toi, ça a été quoi votre force principale la dernière, justement, pour arriver à ce niveau-là?
Je pense que le fait que personne ne nous connaisse a été notre force. Parce que quand tu regardes l'effectif, on a des joueuses qui ont performé comme jamais, notamment Alexis Peterson, qui était inconnu au bataillon en France. Elle a éclaté tout le monde. On avait Odera Chidom dans la raquette qui, pareil, n'était pas forcément connue en France. elle a éclaté tout le monde. On avait Jasmine qui, elle, avait un petit peu plus d'expérience. On l'appelle un peu notre bulldog, même si elle était connue. Elle a éclaté tout le monde. En fait, on avait vraiment nos leaders qui étaient présentes. Et puis derrière, les joueuses avec un petit peu moins, on va dire, je ne veux pas dire d'importance parce que tout le monde a son importance, mais les joueuses un petit peu moins attendues ont été là au moment présent quand nos leaders étaient pris pour cible. Donc vraiment, je pense que c'est ce qui nous a permis d'en arriver là.
Est-ce que tu as quand même le sentiment, sans évoquer de frustration forcément, que vous auriez pu espérer mieux au play-off? C'était, j'ai plus en mémoire, c'était compliqué.
C'était Villeneuve-Dasque.
Villeneuve-Dasque. Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux?
Bah, c'était compliqué parce qu'on avait les blessures, on avait la fatigue. Donc je sais qu'en play-off, bah, moi je me blesse juste avant les play-offs. Je ne sais plus si c'était dernier match de championnat. Jasmine aussi qui se blesse. Donc déjà dans les rotations, bah, ça met un gros coup. Et puis on était, ouais, on aurait aimé faire mieux, mais je pense qu'à ce moment-là, c'est tout ce qu'on pouvait donner.
D'un point de vue individuel, comment tu juges ta saison personnelle du coup de 2021-2022 en comparaison notamment avec celle-là où tu carbures pas mal? Est-ce que voilà, tu étais à 100% confiance ou comment ça s'est passé?
On va dire que la saison dernière, je suis arrivée dans un tout nouveau contexte, nouveau club, nouveau coach, nouvelle ville. Il y avait beaucoup de choses à assimiler. Un rôle de capitaine aussi qui m'a directement été attribué, donc tout de suite des responsabilités. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a eu la période d'adaptation. Il y a eu la période d'acceptation de mon nouveau rôle, c'est-à-dire qu'il était un petit peu moindre sur le terrain, mais d'autant plus important en dehors du terrain. Donc petite période d'adaptation que j'ai pu vraiment... J'ai su m'y faire au bout d'un moment, vu qu'en deuxième partie de saison, je me sentais mieux. Et puis aujourd'hui, je suis juste dans la continuité.
Bah justement, sur ce rôle de capitaine, est-ce que depuis le début de ta carrière, tu as toujours été un peu une leader vocale dans tous les vestiaires, tout au long de ton parcours?
Je pense que oui, sans même m'en rendre compte. À Chartres, je l'étais. À Landerneau, je n'étais pas forcément capitaine, mais là, on me le rabâchait. Tu es un leader, tu dois parler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et je pense que ce n'était pas non plus vocal que je le suis, mais on va dire... De par l'engagement, voilà, c'est même au sein des groupes d'amis ou avec ma famille, j'ai toujours été un peu un leader, entre guillemets, donc c'est quelque chose d'assez naturel, on va dire.
Du coup, comment tu sens un peu, en tant que capitaine, la cohésion du groupe, par exemple, à l'heure actuelle? Comment tu la sens?
Ah, on est une vraie bande de potes, hein. Ça se passe très très bien, on s'entend super bien sûr et en dehors du terrain, même malgré les petits coups durs, notamment notre premier match à Charleville où on en prend 30, eh ben on est resté soudés et puis ensuite on a déroulé.
On va revenir sur cette saison. À l'intersaison, donc, il y a eu un changement de coach au club. David Gauthier est parti à l'ASVEL et c'est Aurélie Bonan qui est arrivée pour le remplacer. Comment vous, les joueuses, vous avez géré, en tout cas vous, les joueuses qui êtes restées, vous avez géré ce changement d'entraîneur qui pouvait peut-être un peu casser une dynamique, peut-être, potentiellement?
Bah pour nous, c'était une surprise. On ne s'y attendait pas du tout. Et en plus, on l'a appris quelques semaines avant la reprise. Si je ne me trompe pas, c'était 2 semaines et quelques avant la reprise. Donc complètement... Dans un premier temps, on ne savait pas qui allait arriver. Donc on se disait, mais c'est qui le coach? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Et très rapidement, ensuite, on a entendu le nom d'Aurélie Bonan. Donc pour moi, personnellement, je parlais pour moi parce que je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans la tête des autres exactement. Moi, Aurélie, je la connais depuis mes 15 ans en tant que personne et en tant que joueuse. Donc je savais très bien que ça allait bien se passer. Donc après, pour les autres, je sais qu'il y a eu de l'appréhension, notamment par rapport aux étrangères. Mais ça a été vite réglé, donc ça va.
Et du coup, ouais, vas-y, c'est vrai.
Ouais, parce qu'il faut rappeler que nous, c'était quasiment un mois avant. On avait été invité en conférence de présentation
de l'effectif.
Du nouvel effectif et surtout des nouvelles joueuses. Ouais. Et il n'y avait aucun signe de départ. Et c'est vrai que même nous, quand on l'a appris, on était en mode... Il y a une erreur dans la news.
Ouais, mais comme je dis, ça fait l'effet d'une bombe en fait. Personne ne s'en doutait, personne n'était au courant et encore moins nous, tu vois. Donc du coup, je te le dis en toute franchise, on n'était vraiment pas au courant.
Est-ce que certaines d'entre vous êtes toujours en contact avec David Gauthier ou...
Oui, je lui parlais encore il y a 2 jours par message. Ah. Non, on aime bien le titiller un petit peu. Et voilà, il faut dire qu'humainement, c'est une très belle personne, un très bon coach. Mais humainement, on a énormément partagé avec lui. Et de pouvoir rester en contact avec lui, c'est juste génial, quoi.
Donc voilà, il y a un changement aussi, on l'a dit, sur l'entraîneur principal. Mais il y a aussi donc, forcément plusieurs départs cet été, mais aussi plusieurs recrues. Comment s'est passée justement l'intégration des recrues au sein du groupe?
Je pense que ça s'est plutôt bien passé. On les a mises tout de suite dans le bain et même bien avant qu'on reprenne, puisqu'on avait déjà créé notre petit groupe WhatsApp sur lequel on échangeait, sur lequel on leur disait si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit pour comment ça se passe en temps normal, comment ça se passe pour les appartements, la ville. Généralement, quand on leur parle de la ville, elles ont hâte d'arriver parce qu'elles se disent oh, bon, c'est bon, on n'est pas au fin fond de la France, on n'est pas perdu. Ouais. Et ensuite, je pense aussi du fait que Angers soit une ville sportive, ça nous apporte aussi un petit peu plus de. On voit autre chose. Il n'y a pas que nous. Donc, généralement, on va toujours au match de l'EAB. Le SCO, c'est un petit peu plus compliqué. En plus, il fait froid.
En ce moment, c'est
donc, confirme.
On va attendre les beaux jours, que ce soit sportivement, mais aussi au niveau de la météo.
On est bien au chaud dans la salle, quoi. C'est
voilà,
on
est à la salle, il fait bon. Et même par rapport aux Ducs d'Angers, je crois qu'on dit, les Ducs, quelquefois on est invité ou on va au match de hand. Bon, cette année, le hand n'est pas dans la même salle, ce qui est dommage, parce que l'année dernière, on avait beaucoup d'interactions avec eux. Non, mais vraiment, ça nous apporte, ça nous fait voir un petit peu autre chose, parce que malheureusement, en dehors du basket, il n'y en a que très peu qui vont encore à l'école, notamment les jeunes. Mais sinon, on n'a que ça, quoi. Ouais. Donc,
Tu ressens un peu la Dallangevine, la fameuse Dallangevine.
Oui, bah franchement, avec tous les autres, notamment moi qui suis vraiment quelqu'un de très ouvert, qui aime vraiment découvrir beaucoup de choses et notamment les autres sports, on s'ennuie pas, je m'ennuie pas. Il y a toujours un truc à faire, à regarder, un petit résultat à voir sur Instagram, tout ça. Enfin, c'est cool.
Faustin, est-ce que tu as une question pour notre invité?
Ouais, moi je me demandais, est-ce que tu as toujours voulu jouer intérieur ou est-ce qu'il y a un moment au début de ta carrière, tu t'es dit, ce serait cool d'aller à l'extérieur?
Franchement, j'étais grande très tôt, donc je savais que j'avais pas le choix. Je pense que je fais aujourd'hui 1m85-6 et je l'ai fait depuis mes 14 ans. J'ai vraiment grandi d'un coup. Rudy Gobert était dans ma classe. J'étais plus grande que Rudy à l'époque. Et maintenant, quand je le vois, je me dis, mais toi, je te bottais les fesses avant quand tu me donnais pas les réponses au contrôle. Maintenant, t'es plus grand que moi. Mais ouais, j'ai vraiment grandi très tôt. Ouais, non, mais il donnait pas les réponses au contrôle de maths. Et moi, je suis nulle en maths. Il cachait sa feuille, là. Il fait partie de ceux qui cachent leurs feuilles. Mais ouais, non, je savais que j'allais être intérieur. Si j'aimais bien Allen Iverson, peut-être parce que voilà, à l'époque, c'était pas répandu comme aujourd'hui, les tatouages, les tresses et tout. C'était l'américain type et moi, j'étais comme une gosse devant lui. Bah, j'étais une gosse de toute façon.
Le côté bad boy à la Rodman et tout ça.
Ah oui, ça m'impressionnait. Ça m'impressionnait beaucoup et puis même je trouve que ça donnait quelque chose en plus au basket en fait. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui non plus ici, c'est ce côté un petit peu, la rue, bad boy et compagnie, les trash cross.
Sur le terrain.
Voilà, ça aujourd'hui on l'a pas beaucoup. Notre petite américaine a trash talk beaucoup. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ça fait du bien, ouais.
Ok. Je profite pour faire une petite breaking parce qu'on en a pas parlé, mais il y a les Ducs qui jouaient ce soir.
Ah oui, il y a les Ducs
qui jouent actuellement là, et qui mènent déjà 3-0.
D'accord, ok. Également, on regardera pour le AB qui joue en ce moment, mais voilà, bref. On va continuer l'interview. Je voulais parler du début de saison qui est très bon pour toi. On a l'impression que tu as vraiment pris une nouvelle dimension cette année à Angers. Est-ce que tu as le sentiment aussi que voilà, t'as passé un cap?
Oui, je pense aussi. Après, je suis complètement libérée. Je me pose plus de questions. Le jeu vient à moi, en fait. Je fais juste ce qu'on me demande de faire. Je cours, je saute, je défends. Et puis, je suis à la finition la plupart du temps. Donc, ça ne peut être que bénéfique et pour moi et pour mes coéquipières.
Et du coup, voilà, maintenant, on va évoquer les prochains matchs de l'UFAB, puisqu'il y a notamment trois échéances qui arrivent dans trois tableaux différents. On commence par la Coupe de France, donc avec une revanche à prendre sur l'Atte Montpellier. Donc ça, c'est jeudi, je crois. L'Atte Montpellier qui vous a battu pour le premier match de LFB. Est-ce qu'il y aura un sentiment de revanche qui va prédominer? Et est-ce que d'ailleurs, tu penses que ça va vous aider déjà de les avoir déjà affrontés en championnat pour aborder ce match de Coupe?
Il y a toujours un sentiment de revanche quand tu joues contre une équipe qui t'a déjà perdu, même si c'est dans un autre championnat, entre guillemets, là c'est en Coupe de France. On aura à cœur vraiment de un, prendre la revanche, et de deux, de pouvoir nous relancer, parce que là on sort de trêve, on aura besoin de se sentir bien et en confiance pour pouvoir affronter le match de dimanche contre Basketland. Donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire.
Ouais, justement, je voulais y revenir donc sur le match c'est dimanche.
Oui.
Une autre grosse équipe donc du championnat vous attend à Jean Boin. Donc c'est Basketland qui réalise un début de saison assez inattendu et surtout un peu catastrophique. Je crois qu'elles n'ont toujours pas gagné, que ce soit en Euroleague et en championnat. Mmh. Est-ce que justement la mauvaise forme de vos adversaires, c'est quelque chose que vous prenez en compte avant de disputer un match comme ça ou pas?
Bah, c'est sûr qu'on y pense, mais on sait très bien qu'elles vont finir par se réveiller. Ouais. Et on n'a pas envie que ça arrive contre nous. Parce que là, on sort de trêve. Donc, pendant la trêve, elles ont dû bien se roder. Elles ont deux nouvelles joueuses. Donc, des joueuses, pas des moindres, hein, très performantes. Donc, on sait très bien que dimanche, ce sera un match très compliqué, qu'il va falloir qu'on soit vraiment complète, qu'on joue 40 minutes. Parce que la moindre chose qu'on leur laissera, elles le prendront. Et après, ce sera trop tard pour revenir au score. Parce qu'il ne faut pas oublier que malgré leur mauvais début de saison, c'est une équipe d'Euroleague, c'est une équipe normalement haut de tableau. La saison est très très longue. Elles peuvent commencer à 0-4 et puis tout gagner jusqu'à la fin. Donc, affaire à suivre.
Et justement, au niveau du jeu, qu'est-ce qu'il va falloir faire selon toi pour contrer les Marine Fautou, Marie-Ève Paget ou encore Céline Dumerc?
On y travaille aujourd'hui.
Attention, on ne dit pas tout.
Ah, je ne peux pas tout dire.
Les envoyer directement sur le banc.
Voilà. Mais ce serait pas mal qu'on les fasse fauter. Je pense que l'agressivité, comme tu dis, les envoyer directement sur le banc, il va falloir qu'on soit agressive, il va falloir qu'on leur rentre dedans dès le début du match, qu'on les fasse fauter tout simplement. Si on les laisse dérouler, c'est terminé.
Ouais, évidemment. Mercredi prochain, donc, c'est un déplacement du coup à Brno. Je ne sais pas comment on prononce, hein, mais Brno.
Brno,
c'est...
Brno.
Ouais, c'est Bruno sans le U.
Voilà.
En République tchèque, donc, pour le compte de la cinquième journée de recoupe. Les longs déplacements comme ceux-là, est-ce que ça influe un peu sur votre préparation de match? Bah, évidemment, mais je veux dire sur votre niveau physique.
Oui, ça fatigue dans le sens où je peux vous donner l'exemple de quand on est parti en Croatie il y a 2-3 semaines. On s'entraîne le lundi, on enchaîne directement après l'entraînement, on monte dans le bus, on va à Charles de Gaulle, on dort à l'hôtel. Le lendemain matin, on prend l'avion, on arrive là-bas, tu poses tes affaires à l'hôtel, tu manges vite fait, tu vas directement à l'entraînement, tu retournes à l'hôtel. Enfin, t'as pas de temps où tu te poses chez toi, du moins, parce qu'il y a toujours une différence entre se poser chez soi et se poser à l'hôtel. Mais là, t'as pas le temps, t'enchaînes entraînement, hôtel, tu manges dodo, tu repars, kiné, nanan. Ouais, c'est quand même assez long et généralement quand on s'en va, on part le lundi, on revient que le jeudi. Okay. On s'entraîne vendredi pour normalement match le samedi.
Ouais, donc c'est
t'as juste le dimanche où tu te dis alléluia, c'est bon, je suis à la maison.
On se repose.
Ouais.
Et heureusement, il n'y a pas de décalage horaire.
Heureusement.
Trop important.
Ouais. Sinon, ce serait chaotique.
Ouais. Dernière question pour ma part. Donc là, au niveau des résultats de l'UFAB, donc vous êtes en championnat, une victoire sur quatre matchs joués. En Eurocoupe, ça se passe plutôt bien. Je crois qu'il y a deux victoires, deux défaites.
Une défaite.
Et du coup, justement, comment tu juges collectivement ce début de saison? Est-ce que c'est plutôt mitigé par rapport à l'année dernière ou est-ce que quand même vous êtes sûr de ce que vous faites et vous avez confiance?
C'est sûr que par rapport à l'année dernière, c'est pas trop comparable. Là, je vais juste parler du championnat. On commence un peu moins fort, on commence avec notamment deux défaites. Ensuite, si je prends le global, c'est un début de championnat très prometteur, où vraiment sur le premier match, on se cherchait encore. Je pense qu'il y avait une petite appréhension. Et en plus, commencer en Coupe d'Europe, voilà, c'était pas forcément évident, même si on était à côté, à Charleville. À côté, parce que c'est une équipe française, hein, c'est pas à côté d'Angers. Mais sinon, on monte en puissance. Voilà, on monte en puissance. On a repris des entraînements ce soir collectivement. C'est très prometteur. Et puis, je pense qu'on a de quoi faire une belle saison.
Ouais, et puis, toute la grosse phase d'adaptation, là, elle est vraiment passée. Même pour les joueuses qui étaient blessées en fin de saison, qui revenaient progressivement, tout ça,
tout le monde se sent bien.
Dans le même sens. Quoi.
Voilà.
Et donc, merci beaucoup, Kiki, d'avoir été avec nous donc, pendant près d'une heure sur Génération Sport. Donc voilà, prochain match, c'est jeudi en Coupe de France contre Lattes Montpellier. À la mi-temps, entre l'EAB et donc c'est Clermont-Vichy, il y a 44-36 pour les Angevins. Et au niveau de la Coupe du Monde, seulement un but sur les deux matchs avec le but de Christian Pulisic pour les États-Unis contre l'Iran. On va vite libérer l'antenne avec donc Imaginaire qui arrive juste après nous. On se quitte avec le générique et puis surtout on se dit à la semaine prochaine. We'll